Maranatha revient, celui que nous avons vu, il nous dessine pour nous l'image du Mashiach attendu par Israël, et toujours pour nous le vrai Mashiach, celui qu'Israël attend et continue d'attendre. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas simplifier le problème, simplifier le fait que pour les chrétiens aussi, la question du Messie, du Mashiach, est une question qui doit sans cesse ne cesser d'être creusée. Et que par conséquent, il ne faut pas télescoper toute la dimension de l'histoire qui continue d'exister et où Israël joue son rôle par rapport à la question de l'attente du Mashiach. J'ai été clair, suffisamment clair. Même si, donc, d'un côté, aux yeux d'Israël, le christianisme se présente comme une anticipation messianique, et si, aux yeux des chrétiens, le judaïsme se présente comme un retard, ou comme un délai messianique. Et puis alors vous avez posé la deuxième question, la question de l'Eucharistie, je ne veux pas y entrer, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais derrière les termes de pain et de corps et de sang, c'est la personne. Bassar Vadam, c'est la personne. C'est la personne qui est derrière. Il ne faut pas matérialiser les termes. Alors sans ça, on tombe dans je ne sais pas quel culte païen ou mitra ou je ne sais quoi.
Pour préciser. Si Jésus dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis », il ne dit pas « Avant qu'Abraham ne fût, mon nom fut, mon nom est ». Et il ne faut pas confondre le nom avec l'être, parce que quand même, plusieurs personnes peuvent avoir le même nom. Et je ne vois pas comment on pourrait le définir dans l'existence comme ça. Et si les Hébreux disent, ou la tradition juive dit que le Messie préexiste à la création, ou était déjà conçu avant la création, c'est-à-dire que son être, et pas seulement son nom, est conçu.
Oui, mais David, d'accord, vous posez très bien, les problèmes fondamentaux tels qu'ils se posent aux chrétiens qui se rattachent au nom de Jésus. Vous les renvoyez à leur origine, vous leur posez, vous, en tant que juif, la question de leur origine, et vous les obligez à se poser donc la question fondamentale de leur identité et de leur appartenance. Et je crois donc qu'il n'y a rien de plus à dire, il n'y a rien de plus à dire à ce niveau-là, sinon que peut-être vous laissez pressentir que cette existence réciproque et qui hélas a été sur le mode de la contestation et très grave pour Israël à travers de l'histoire de l'existence des juifs et des chrétiens pouvait prendre un autre sens en notre temps qui est celui pour les chrétiens par leur adhésion messianique de rappeler au peuple juif qui sont le peuple qui attend le Mashiach à des moments où peut-être tenter de laisser de côté cette donnée si fondamentale qui cesse son attente dans une réalité sans quoi elle se dilue dans l'inconnu, et d'autre part, que l'existence juive rappelle aux chrétiens les fondements mêmes de ce qui fait leur attachement à la personne de ce Jésus qui était juif, fils d'Abraham. Voilà tout ce que je peux dire, je ne crois pas qu'on puisse dire beaucoup plus aujourd'hui, sinon qu'on fournit par là les éléments qui permettent de surmonter une controverse qui a dévié au cours de l'histoire.
Bien, je propose, je ne sais pas si je vais intervenir sur la question de M. Opel, ça nous prendra un peu trop de temps, peut-être nous aurons l'occasion de la reprendre. Effectivement, vous avez aidé à mettre au point la différence de référence du verset des évangiles et du Midrash juif qui sont différents malgré tout. Ceci dit, je vous propose l'horaire suivant, il est déjà presque 11h. Je vous propose de travailler jusqu'à 11h30, si vous voulez, parce qu'ensuite nous avons des problèmes de sécurité. Et d'aborder tout de suite le dernier point, si vous voulez bien, monsieur Dupuis, ou alors donner encore, sur ce premier point, la parole à la Sainte-Cité.
Je voudrais interroger le
père
Dupuis, de la façon suivante. C'est-à-dire que la contestation chrétienne de l'élection d'Israël n'était pas une contestation de l'élection elle-même, mais l'exaltation de la revendication de l'exclusivité d'Israël. Or, à partir du moment où le christianisme existe, c'est-à-dire où tout homme a la possibilité de réaliser son salut, d'avoir besoin de passer par Israël, Et tu dis que de toute façon, aujourd'hui, dans une théologie positive pour le christianisme et pour le judaïsme, il y aurait une possibilité mutuelle, l'un envers l'autre, de rappeler l'un vis-à-vis de l'autre ce que l'un et l'autre attendent, c'est la même chose. Il me semble tout de même que là, il y a un certain flou. Parce qu'en fait, pour aller jusqu'au bout des choses, de la moitié du moment où le christianisme existe, le judaïsme en tant que tel, qui se prétend Israël, n'a plus de raison d'être. Il a eu une raison pédagogique avant l'apparition du christianisme, et d'ailleurs l'histoire concrète a bien montré que c'était ainsi pendant des siècles où les juifs étaient simplement tolérés, mais où le judaïsme en tant que tel était considéré comme dépassé et les juifs représentaient l'entêtement à ne pas pouvoir reconnaître que l'événement avait eu lieu. Donc j'ai l'impression un petit peu qu'il y a dans ce que tu présentes de la position du christianisme et du judaïsme, il y a une reconnaissance d'Israël, mais pas exclusive, il y a quelque chose de pas tellement cohérent avec ce qui me semble être la réalité. À moins que, c'est là ma question, il y aurait déjà dans ce que tu dis un renouvellement de la théologie chrétienne qui pourrait être, alors quelle serait-elle aujourd'hui, quelle serait la théologie positive vis-à-vis d'Israël qui ne trahirait pas en réalité le christianisme dans ses origines lui-même. Il me semble qu'il y a un petit peu dans cette approche positive peut-être un reniement de ce que a été le christianisme.
Non, je crois qu'il y a un certain nombre de points dont tu ne tiens pas compte et qu'il faut ici souligner. D'abord, le christianisme se fonde sur la Bible, et la catégorie biblique fondamentale, c'est celle de la distinction des juifs et des goïms. Ça, c'est une distinction qui doit traverser toute la durée de l'histoire, bibliquement parlant, je ne me contredirai pas, et qui demeure. Bon, par conséquent, toute thèse qui se fonderait sur l'affirmation que cette distinction est surmontée ou dépassée, à un moment quelconque de l'histoire, se baserait sur une fausse conception du messianisme lui-même. Bon, ça c'est une première remarque. Deuxièmement, les réflexions que tu fais minimisent la question de l'identité, tant de l'identité juive que de l'identité chrétienne. Et avec la question de l'identité, la dimension de l'histoire qui est la prise de conscience de l'identité. Il me semble qu'elle minimise la question de l'identité, c'est-à-dire que tu supposes le problème résolu, tu supposes qu'on est au terme de l'histoire, ce qui est la définition même du Mashiach, c'est-à-dire que le Mashiach n'est pleinement reconnu qu'au terme de l'histoire, pour les chrétiens comme pour les juifs. C'est-à-dire que tu supposes que la dimension de l'histoire est résolue et que les problèmes d'identité sont résolus. C'est-à-dire que les juifs n'ont pas de problème d'identité et que les chrétiens n'ont pas de problème d'identité. Et bien ça, c'est à voir. C'est à voir. Et je pense que la réalité, puisque tu me dis, je ne suis pas sûr que ce que tu dis soit proche de la réalité, je pense que la réalité à ce niveau-là, elle est plus proche que la thèse, disons, dogmatique ou la thèse toute faite, qui consiste à opposer, terme à terme, la position juive à la position chrétienne. Je pense donc que la question de l'identité chrétienne renvoie à la question de l'identité juive, que la question de l'identité juive est donnée bibliquement. La question de l'identité chrétienne n'est pas donnée bibliquement, et pour une raison dans laquelle nous allons revenir dans un instant, c'est que l'identité chrétienne ne se définit pas autrement que dans l'identité juive, c'est-à-dire l'identité de Jacob. C'est la question de Jacob et d'Ésaü, à laquelle nous sommes indéfiniment renvoyés ici, et à laquelle je reviendrai dans un instant. Alors, le flou dont tu m'accuses, là, le flou, il est possible qu'il soit dans l'expression et dans la difficulté que nous avons aujourd'hui à saisir une réalité qui est présente, et à l'exprimer des termes qui sont en effet nouveaux par rapport à des positions séculaires qui ont obnubilé cette situation du rapport juif-chrétien. Il est possible donc qu'il y ait un certain flou à ce niveau-là, et qu'il y ait un certain flou dans les journaux qui ne sont à son lieu même de reconnaître ce qui est simplement sous leurs yeux, etc. Mais je ne crois pas que le flou soit dans la pensée des textes chrétiens que j'ai publiés au cours de l'année dernière, etc. Je ne crois pas que, évidemment, nous sommes dans une démarche qui est en train de se faire et de prendre conscience d'elle-même. Par conséquent, à ce niveau-là, il y a toujours une recherche qui s'opère. Mais je pense que la recherche qui s'opère ici peut se fonder sur la parenté secrète et profonde, encore que non dévoilée, qui existe entre les sources juives et les sources chrétiennes reprises à la religion. Bien, vous avez la parole pour la dernière analyse.
Problème de cette fraternité,
Ésaü et Jacob. Alors je vais y venir, et puis tu me répondras. Tu veux bien, parce que sans ça, moi, ça fait 10 minutes que je suis coupé sur un point tout à fait essentiel. Là. Bon alors, sur la question Jacob et Ésaü, je crois qu'elle est absolument fondamentale, et nous aurions grand bénéfice à nous rencontrer pour la poser davantage. Et je crois que ce qu'a dit tout à l'heure Manitou, nous aide extraordinairement, y compris pour nous, du côté chrétien, à bien situer les termes de donc ce que j'ai appelé la contestation, d'un mot qui peut être pris trop fort, mais qui peut être pris de façon négative, et que je veux retourner en face à face, si vous voulez, en face à face, qui reprend chacun dans son identité primitive et de façon positive. Bon, donc, l'identité chrétienne vue dans l'identité des hommes et des Ésaü comme donnée traditionnelle du judaïsme. Alors, Manitou a très bien dit que le moment où s'est constituée cette typologie, cette affirmation, fut un moment qui visait la Rome païenne et pas le christianisme. Le moment constitutif de cette lecture de la dualité Jacob-Ésaü s'est joué en plusieurs étapes, d'ailleurs, de l'histoire d'Édom comme héritier d'Ésaü, et ensuite avec l'aventure d'Hérode, l'Édomite, qui était purement et simplement un faux converti, qui pour faire passer son ambition typiquement romaine, s'est converti, donc a été hypocrite, et a bénéficié donc de la typologie des Ésaü. Sommes d'accord?
Absolument.
Ceci dit, passons maintenant au christianisme. C'est là qu'il y a une hésitation dans le Midrash, car c'est subrepticement que l'interprétation du Midrash, constituée telle que je viens de dire, s'applique finalement au christianisme. Je ne doute pas qu'elle s'y applique, je suis certain en lisant les sources juives qu'elle s'y applique, et il y a en même temps des expressions sur le christianisme de tel ou tel auteur qui cherche à se distancier de ce que peut avoir de global et de totalitaire l'emploi de l'allégorie ainsi faite. Car le christianisme ne se définit pas par Rome, et c'est là qu'est tout le problème. Le christianisme romain est marqué par Rome, mais le christianisme ne se définit pas par Rome. Et la preuve, c'est qu'il a d'autres expressions que l'expression romaine, que Rome n'est pas dans le Nouveau Testament, n'est pas donné dans les sources chrétiennes, même, et alors c'est là que je viens, si Rome appartient à l'histoire du christianisme. Alors ce qui est là, nous y touchons du doigt, c'est que le christianisme assume la destinée des nations, la prend en charge, et c'est l'histoire des nations intégrée dans le christianisme qui apparaît dans le fait romain, qui marque du fait romain l'histoire du christianisme, et qui fait que la typologie des Ésaü peut s'appliquer à l'histoire du christianisme. Mais le christianisme ne peut pas se réduire à ce fait historique de son implantation dans les nations, puisque dans sa définition, il se rattache à Jésus juif, par conséquent, fils de Judas, fils de Jacob. Et par conséquent, alors, comment se situe cette question du lien entre Ésaü et le christianisme? C'est par le biais du fait que le christianisme prend en charge, je dirais, Ésaü, prend en charge les nations, c'est-à-dire prend en charge Ésaü. Seulement, il ne peut prendre en charge Ésaü qu'en tant qu'il se définit comme Jacob. C'est-à-dire qu'il se définit comme voix ou comme parole. C'est-à-dire qu'en effet, les mains de l'histoire sont les mains d'Ésaü, mais la voix qu'il se prétend être ne peut pas être une autre voix que la voix de Jacob. Et alors,
nous avons joué
Jacob diagnostique dans Rome la tentation d'Ésaü, le fait d'Ésaü, mais je dirais alors, c'est le rôle du juif. Mais pour le juif, cela reste un problème extérieur à lui, pas extérieur à son histoire, car son histoire vient justement lui rappeler la présence d'Ésaü, mais extérieur à lui-même, tandis que pour le christianisme authentique, c'est là un problème intérieur. Nous sommes d'accord? Vous m'avez suivi?
J'ai.
Mais est-ce qu'il faut lui appliquer le midrash d'Ésaü concernant la connaissance
privilégiée qu'Ésaü avait des règles de la Shrita, ou aussi d'ailleurs pas seulement de la Shrita, mais aussi des règles du culte, car il connaissait aussi toutes les rubriques des sacrifices. Bon, par conséquent, est-ce que c'est le droit romain, ça? Non. Alors, le Midrash que vous m'avez très bien envoyé dans les jambes, je le reçois très bien, seulement littéralement, il parle de la Shrita et des sacrifices et des autres. Par conséquent, le problème du Midrash est ici renvoyé. Bon, ceci se dit, tout le débat il est là, mais il est bien situé. Alors, à vous maintenant.
Je veux mettre une minute, puisque j'entends vous appeler David. Et je vous remercie d'avoir très très bien situé le débat, et je crois qu'effectivement nous aurions beaucoup de profit à étudier cela au fond lors d'un séminaire ou puis notre type de rencontre. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que très certainement nous sommes dans un temps où c'est destiné à se renouveler, et à cause des événements qui se passent dans la chrétienté. C'est-à-dire que nous sommes une génération où nous présentons, en tant que juifs, qu'effectivement Rome s'interroge sur ce qu'a été sa centralité dans le monde chrétien lui-même. Vous y avez fait allusion dans votre propre langage tout à l'heure. Et que peut-être le jour où le pape ne serait plus que l'évêque de Rome, enfin le pape romain ne serait plus que l'évêque de Rome et non pas le pape de la chrétienté, alors nous pouvions poser le problème comme vous l'avez fait. Je pense que historiquement il est possible que nous nous approchions d'un temps de ce genre, ce n'est pas aux juifs à le dire, ce sont les chrétiens qui le préparent. Et il y a eu, si vous voulez, un grand absent de notre débat. C'est la personne du Messie, je le dis en français parce que vous avez dit Mashiach en pensant au Christ, et moi je ne peux pas dire Christ en pensant au Mashiach. C'est effectivement la grande absence de ce débat. Ce devrait faire l'objet d'un tout autre débat. Alors je ne veux pas du tout m'exprimer en termes de Midrash, mais pensez bien que de même que la chrétienté est interpellée par l'identité juive, il est bien évident que le judaïsme a été interpellé par l'identité chrétienne telle qu'elle se formule au niveau de la personne de Jésus que vous appelez Mashiach, attendu par les juifs. Et qu'il y a toute une élaboration de ces réponses à faire en langage contemporain, et nous devons nous y attacher, mais que la réponse existe. Et ces contemporains, si vous voulez, de la découverte de l'existence juive par le monde chrétien. Et nous avons l'impression trop souvent, et nous n'avons pas vécu, sinon des réincarnations antérieures, mais nous n'avons pas vécu ces temps de confrontation à travers les siècles et deux millénaires de la chrétienté et du judaïsme. Mais nous avons l'impression, en lisant les sources, en lisant les textes, ce que l'histoire nous a laissé comme document, qu'il n'y avait effectivement place, sauf chez des chrétiens à l'échelle individuelle, et qui étaient des chassidés ou motards au lame, tout en étant chrétiens, je n'ai pas lu bien qu'être chrétien, tout en étant chrétien, que place, que, comme a dit Michel Prince tout à l'heure, que pour une théologie négative du judaïsme dans la conscience chrétienne. Aujourd'hui, je crois que très sincèrement et de très bonne foi, la conscience chrétienne, chez des êtres de pointe, je ne l'ai pas cité, mais je le cite quand même, se pose très sérieusement cette question, la recherche d'une théologie positive. Et inévitablement, le problème est que c'est à un niveau supérieur. Le double emploi n'est plus entre deux Israël, c'est en Israël de l'existence et la règle du Christ que cette fois le problème se pose. Je veux simplement vous dire une indication de réflexion, et bien sûr vous la refusez parce que vous êtes chrétien, mais je pense que nous pouvons aménager notre dialogue et nos liens nouveaux pour l'avenir sans que la foi chrétienne, dans son essentiel pur et à purifier constamment, comme vous l'avez dit, ne soit touchée. Simplement, en lisant ensemble, juifs et chrétiens, je veux dire juifs de la tradition juive, non pas seulement l'Ancien Testament, mais le Nouveau. Très souvent, les chrétiens disaient qu'il y avait une sorte de voile jeté sur la Bible, le Tanakh, enfin l'Ancien Testament, qui empêchait les juifs de lire l'Ancien Testament comme il faudrait. Je vais prendre le courage de dire un peu l'inverse. Je me demande si pendant 2000 ans, il n'y a pas eu un certain voile jeté aux yeux, entre les yeux des chrétiens et le Nouveau Testament. Et qu'il y aurait une nécessité de relecture du Nouveau Testament en compagnie de juifs possédant la mémoire dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, et que vous, de façon extrêmement intense, vous êtes donné comme vocation de retrouver en tant qu'hébraïsant. et pas seulement hébraïsant, mais aussi au courant des sources du Midrash et du Talmud. Il y a un redécodage à faire de telle sorte qu'on puisse retrouver cette source que ce sont en fait des Juifs qui ont pensé l'Évangile. Et par conséquent, qu'est-ce que cela veut dire pour notre problème? Et il y a, et là je crois qu'il y aura énormément de portes qui pourront s'ouvrir et de solutions qui apparaîtront. Ça va demander un aménagement dans la conscience chrétienne des habitudes mentales et même spirituelles par rapport au fait juif, habitudes qui ont duré 2000 ans, et je comprends très bien, nous comprenons très bien que c'est très difficile de se désintoxiquer d'habitudes mentales de 2000 ans. Ça demandera, comme j'ai dit tout à l'heure, des réaménagements, non seulement du vocabulaire théologique chrétien, mais aussi des positions sociopolitiques, parce qu'en fin de compte, Israël se retrouve dans le temps contemporain comme nation ressuscitée, s'il est dévoilé, et non plus seulement comme peuple dispersé sous l'aspect de communautés religieuses greffées sur d'autres identités nationales, ce qui est un peu le cas légal, disons, de la chrétienté. Et peut-être qu'on découvrirait qu'il y a là, au niveau des langages, de religion à mystère de ce temps, énormément de choses à décoder, et que la figure du Christ représente pour les chrétiens Israël lui-même. Et à ce moment-là, vous pourrez récupérer tout ce que vous nous avez dit à un autre niveau d'épuration du langage qui pourrait nous permettre de parler de la même chose. Et j'entends bien qu'il y a là un effort considérable d'épuration à faire, mais si le temps est arrivé de l'inaugurer, c'est un devoir de l'inaugurer. Je ne vais pas en dire plus, mais en fait, simplement pour ajouter une note d'optimisme à un problème qui, dans l'état des choses, est bloqué, pratiquement.
Je dirais par rapport à Hachem, ça fait 10 ans que j'attends une parole comme celle-là, c'est-à-dire que je crois profondément que la lecture même des évangiles dont les chrétiens ont besoin pour retrouver leur origine, ils ne peuvent pas la faire eux-mêmes, mais il faut que les juifs puissent la faire. Et voilà, ça pose tout un problème, parce qu'il faut surmonter deux choses. Il faut surmonter, d'une part, une peur des deux côtés. Et c'est ça qui est le plus dur à surmonter. Il faut surmonter une peur cette rencontre même n'ébranle quelque chose de nos positions perspectives. C'est cette peur qui a entraîné le jugement globalement négatif et du judaïsme christianisme, car le globalement négatif, même s'il y a des racines démontables là, et le jugement négatif séculaire du christianisme sur le judaïsme. C'est cette peur qu'il faut surmonter et qui a empêché jusqu'ici le commencement même du travail que vous évoquez. Et alors là, il y a quand même un problème qui est presque alarique, c'est que je crois que par prudence, la tradition juive a estimé que ces matières-là n'étaient pas matières à débat public. C'est donc objet, et ça continue. Par conséquent, c'est donc un objet privé. Peut-être centre Rachi reste de l'ordre du privé à un certain plan, mais c'est de l'ordre du privé plus que de l'ordre du public, et c'est une discipline qu'il faut respecter. Parce que je pense que cette attitude séculaire du judaïsme, loin d'être à interpréter par nous comme purement négative, doit être considérée comme positive. C'est-à-dire que c'est parce que justement elle avait conscience qu'il s'agissait là d'un débat important qu'il était interdit, sinon on n'aurait bien pu le lancer sur la place publique. Par conséquent, il y a là des questions sérieuses qui peuvent poser des questions ardues à la conscience juive, en même temps que par ricochet, elles en poseront à la conscience chrétienne. Mais je dis, c'est un problème fondamental. Et si à travers l'histoire on ne l'a jamais posé, c'est parce que la peur l'a emporté sur la lucidité. Et c'est ce qui nous a fait peut-être le plus mal d'un côté comme de l'autre. Et je dis, autant au christianisme que peut-être, vous dites, c'est pas à moi de juger du judaïsme. Est-ce que vous seriez d'accord sur ce que je viens de dire ici? Mais...
Eh bien, écoutez, je dirais à mon tour, dans votre affaire, moi, ça fait 30 ans que j'attendais que vous soyez là.
Ici, fin de la conférence de Trigano.
Israélien, eh bien, interrogé à ce sujet. Et il n'y a pas de doute qu'historiquement, ça ressemble souvent à une rupture. Le Midrash, le Maharal reprend beaucoup, parle du moment de rupture entre Terach, le père d'Abraham, et Abraham. Et indique, comme l'a rappelé Michel, que par le mérite d'Abraham, Terach appart au monde à venir. Et que donc cette rupture n'est pas purement et simplement une rupture de séparation ou de révolte pure et simple. Selon l'enseignement de Jésus à Lévi dans le Kuzari, Terach fait partie de cette lignée du Tselem Elohim, du Einyan Elohim,
à travers laquelle passe le dessein du Créateur, non pas dessein yen, mais dessein eyen, et seulement il y a des temps forts et des temps faibles, comme on disait peut-être en biologie, des temps dominants et des temps récessifs, que Terrar a ce projet du Créateur, mais en négatif, en temps faible, et que cela ressurgit en Abraham, et donc la rupture d'Abraham vis-à-vis de Terrar n'était pas tellement un refus de l'antérieur, mais au contraire une recherche d'un antérieur plus authentique qui était peut-être en latence seulement chez Terrar. Et il n'y a pas de doute qu'il y a eu ce moment. Je pense que les événements de ces dernières années, quand je dis ces dernières années, ça peut être 20 ans, 30 ans, et 10 ou 15 ou 30 ans à venir, montrent bien que c'était un temps provisoire. Mais quelle est sa signification même en tant que provisoire? Puisque nous avons à l'esprit le verset de Malachi, qu'il y aura, comme dit souvent Mme Amado Valensi, Lévi Valensi, mais pour sauver cette pérennité de l'existence juive, sa culture y compris telle qu'elle était en péril dans les générations précédentes, eh bien, a vécu un moment de décrochement, non pas de son être de diaspora, qu'il s'agissait d'assumer dans l'accomplissement du projet, mais, et en ce sens, l'être de diaspora a été compris a posteriori comme une stratégie de survie, et non pas un projet d'accomplissement en soi. Et je pense que toutes les traditions juives, tous les courants de la tradition juive sont d'accord à ce sujet, quel que soit le diagnostic du moment présent. Mais un décrochement de la culture d'Ur Kasdim telle qu'elle était vécue dans l'Occident contemporain. Et en particulier, Ur, c'est pas la lumière, c'était pas une ville de lumière. Ur, c'est la fournaise, c'est or la lumière. Ur, c'est le feu, c'est les fours crématoires. À la limite, le Midrash le dit très exactement, je vais donc de nouveau citer jeudi soir. Et il y a donc une espèce de rancœur qui est peut-être allée trop loin dans son projet de rancœur vis-à-vis d'une espèce de fidélité devenue caduque à un aide de diaspora qui mettait en danger, ce que malheureusement les événements ont dévoilé par la suite, qui mettait en danger l'existence juive en diaspora même. Et ce n'est pas que pour mémoire, j'ai fait allusion à la traduction du Midrash de Ur Kasdim, que c'était le temps où une civilisation devenait immorale, totalitaire et se construisait des fournaises. Et que ce soit les fours crématoires ou d'autres centrales de fournaises. Et effectivement, il y a une sorte de reproche qui a été peut-être parfois mal formulée vis-à-vis du judaïsme rabbinique de la diaspora qui attachait l'identité juive à la symbiose judéo-occidentale dans laquelle elle était en danger. Et il y a une sorte de plus que malentendu réciproque. Les tenants de la tradition allant jusqu'à haïr la conscience d'alarme sioniste qu'il fallait décrocher d'Ur Kasdim pour aller vers le pays d'Abraham, et réciproquement de cette conscience sioniste elle-même vis-à-vis de tenants de la tradition qui mettaient en danger l'être juif. Une haine de ce genre est inexpiable à moins qu'elle ne soit dépassée par une reconnaissance mutuelle. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, puisque ce sont des choses dont il faut parler avec beaucoup de pudeur. Enfin, je veux dire que nous payons encore les conséquences de ce moment où l'Israélien en tant que fils haïssait son père, le juif de diaspora, le juif rabbinique de la synagogue, des communautés d'Europe, parce qu'il l'accusait plus ou moins lucidement de risquer de sacrifier Isaac, d'aller jusqu'au bout. Et ceci n'est peut-être pas terminé dans les faits de la réalité quotidienne, mais je pense que dans le principe c'est un moment déjà dépassé, et qu'il y a depuis quelque temps une tentative de reconnaissance réciproque. Je crois que l'existence du musée de la diaspora à Tel Aviv, je pense à lui en passant, n'était pas qu'un symbole, mais vraiment un acte de reconnaissance dans le sens que j'ai dit tout à l'heure et réciproquement. Je crois que c'est surtout au niveau éducatif, par rapport au problème de la culture, tel que tu en as parlé, que ça reste encore assez grave, mais je crois que dans le principe de la reconnaissance en paternité ou en filialité, les choses ont beaucoup avancé. C'est un peu la remarque que je voulais vous transmettre. Bien, mais je pense que nous ferons notre profit de tout ce qui est en cours.